l'air pur des Barthas. Inspirez, expirez. La nature prend son temps, alors posons-nous le temps d'un soupir. L'air pur des Barthas. La nature, chacun la voit à sa façon. Des enfants de nos écoles aux promeneurs rêveurs, en passant par les professionnels de... Bon, l'oiseau là. T'as fini de me couper ? Oui, on parle de toi et tes copains juste après. Mais là, doucement les cucuis. Hein. Ouais, cucuis. Le guitariste, tu peux recommencer, s'il te plaît ? Merci. Chacun voit la nature à sa façon. Les enfants, les promeneurs rêveurs, et aussi les professionnels de l'éducation à l'environnement. Ils nous ont fait partager leurs connaissances et leur vision de notre belle nature. Mais pour commencer, place aux enfants.
Bonjour Radio Barthas.
Bonjour Radio Barthas.
Bonjour Radio Barthas.
Je suis allée à l'école de Vébron pour assister à une animation donnée par Sophie Lemonnier. Les enfants sont ensuite venus un par un pour discuter avec moi de toutes les choses qu'ils ont apprises. Alors, il y a Sophie qui est là en ce moment. Elle vous fait découvrir des plantes. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe ?
Ça se passe bien.
Comment elle fait pour vous faire découvrir les plantes ?
On nous a donné un cahier de rencontres.
Vous êtes allée dehors, je crois ?
Une fois avec le cahier de rencontres et deux fois avec Sophie.
Et donc, chacun a choisi une plante qui lui plaisait, c'est ça ?
Oui.
Toi, c'est quoi ?
Le bouleau.
Alors, tu peux me faire voir ton cahier, qu'est-ce qu'il y a dedans pour l'instant ? Donc, il y a les présentations. Donc, c'est toi, comment tu t'appelles, quel âge tu as. Ensuite, les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette plante.
J'aime son tronc blanc et ses feuilles.
Donc, le tronc blanc du bouleau.
Oui.
Et tu savais que les arbres avec un tronc blanc, c'était des bouleaux, déjà, avant de l'apprendre ?
Oui. Il y a des chatons, lune et crignotés. J'ai vu des bourgeons. Je me suis sentie bien car l'air est agréable.
Donc là, c'est quand tu étais à côté du bouleau, on t'a demandé ce que tu ressentais et t'as dit que tu te sentais bien.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez fait un dessin pour vous rappeler des étapes du conte. Voilà, vous avez schématisé le conte.
Winabojo, le petit garçon. Mais aussi l'oiseau tonnerre. Winabojo, il est sur une montagne. Il attend l'oiseau tonnerre pour aller dans le nid. Après, il prend les plumes des oiseaux et il ressaute sur la montagne. Et il saute en bas, je pense. Et l'oiseau tonnerre fait du tonnerre parce qu'il est en colère. Et Winabojo va dans le bouleau et l'oiseau tonnerre dit que tu as bien fait d'aller dans le bouleau parce que c'est l'arbre qui protège et il est reparti. D'abord il a dessiné les oiseaux et il est reparti.
Alors déjà, tu as travaillé sur quelle plante ?
Sur l'églantier.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris alors sur l'églantier ?
Qu'avec, on pouvait faire de la confiture et de la tisane.
Et alors, je vois qu'entre les mains, tu as un carnet de rencontres. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet ?
Il y a tout ce que j'ai marqué sur l'églantier et sur... j'ai dit les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce végétal et après... Et avant, on avait fait une balade et du coup, j'ai marqué, il y a même une photo.
D'accord. Et pourquoi tu as choisi l'églantier alors ?
Ben, parce que je l'aime bien, elle vit partout autour de chez moi.
Est-ce que tu as déjà goûté des tisanes et...
Oui, ouais. Après la sortie.
D'accord. C'était bon ?
Oui.
Ouais, mais les orties, elles piquent quand elles sont vivantes, mais si on les coupe et qu'on les fait sécher, déjà, elles ont
plus. Mais comment elle l'a fait avec la main ?
Du coup, tu crois que tu vas ramasser l'églantier qu'il y a autour de chez toi pour en faire des tisanes ou des confitures?
Oui, peut-être.
Toi, t'as pris un conte sur l'églantier?
Oui, mais c'est l'histoire, en fait, le diable, avant, il habitait au paradis, et les dieux, ils l'ont banni parce qu'il faisait trop de bêtises. Du coup, le diable, il voulait remonter grâce à l'églantier. Et le gardien des portes, il a dit... il a appelé le dieu et après, Dieu, il est venu, il a fait baisser les branches et les épines. Du coup, le diable, il est resté enfermé en bas.
Tu as choisi quelle plante, toi?
La rose de Noël.
Et pourquoi tu as choisi cette plante?
Parce que j'aime bien son histoire.
Alors, attends, je vois que sur ton cahier, il y a écrit... S'il n'y a pas écrit rose de Noël, il y a écrit quoi?
Elebor fétide.
Ah, donc ça, c'est son nom scientifique, c'est ça?
Oui.
Et t'en as vu à côté de l'école de la rose de Noël?
Pas à côté de l'école, mais dans la forêt un peu plus loin, là-bas.
Elle était en fleur?
Oui.
Elle ressemble à quoi, la fleur de l'élébor fétide?
Elle est verte et elle a un peu de rose.
Et alors, qu'est-ce que t'as appris un peu sur cette plante?
Une histoire. C'est un peu long, quand même.
De quelques petites choses que tu as envie de me parler de l'histoire, pas forcément en entière?
Le début, je m'en rappelle plus. Après, je préfère te dire la fin.
Vas-y.
La noiraude, elle habite dans un terrier. Ils mangent, ils vont se coucher. La noiraude, il les réveille parce que c'est Noël et elle leur montre le jardin. Et après, il y a un corbeau qui se met sur l'épaule du moine. Et après, celui qui veut protéger le moine, et ben, il l'enlève et il part. Et juste avant, il a que la rose de Noël, qui est avant que le jardin parte.
Donc là, en ce moment, vous êtes en train de dessiner l'histoire, c'est ça?
Ben oui.
Ça fait combien de fois qu'elle vient à l'école, Sophie?
Ben, je crois que c'est la troisième fois et elle doit venir deux fois de plus.
Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Vous allez les raconter, les contes?
Ben après, c'est à notre tour de les raconter, oui.
Alors, toi, tu as choisi quoi comme plant? Le quoi?
Le noisetier.
Où est-ce que tu as trouvé un noisetier?
Dans la rue de l'autre côté de la rivière.
Et pourquoi tu as choisi cet arbre-là?
Parce que je me rappelais de l'histoire.
D'accord. Ah, Sophie, oui. Elle vous a raconté des histoires et après vous êtes allée dans la nature, c'est ça?
Oui.
Et du coup, je vois mes observations. Alors, qu'est-ce que tu as observé sur le noisetier?
Les bourgeons, quand on avait des fins et des gros.
Il y avait des petits bourgeons et des gros bourgeons, c'est ça? Et tu connaissais le noisetier avant?
Oui.
Ouais.
Je connaissais un petit peu parce que mon frère, il en avait mangé et il est devenu allergique. Et aussi parce qu'il y en a dans le terrain.
Le conte que tu as entendu, il parlait de quoi à propos du noisetier?
Il parlait d'un petit garçon qui voulait tout savoir. Un saumon qui avait toute la connaissance parce que dedans, il mangeait des noisettes en or et dedans, il y avait toute la connaissance. Du coup, il savait tout. Puis qu'il mangeait ce saumon, du coup, il savait tout. Et à un moment, il l'a mangé, le petit garçon, et il avait toute la connaissance.
Donc toi, tu as travaillé sur le lierre.
Oui. C'est une plante qui peut pousser de partout sur des parois, sur les arbres, sur les murs, enfin, sur quelque chose où il peut s'agripper.
D'accord. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose du lierre? Est-ce que ça se mange?
Je pense pas, mais on n'a pas encore appris.
D'accord.
Ce qu'on pouvait faire avec.
Alors toi, dans ton cahier, du coup, t'as vu du lierre à côté de l'école, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
T'en as vu où?
J'en ai vu à côté d'un chemin sur un arbre.
Et pourquoi t'as choisi de prendre le lierre?
Parce que j'aime bien. Ah oui, parce que j'aime bien cette plante et elle pousse à côté de chez moi et j'en ai dans une cabane dans mon jardin.
Ton conte, il parle de quoi?
C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Tristan et d'une fille qui s'appelle Isulte.
Et il y a un autre personnage, mais je sais plus comment il s'appelle. Il aime Iseult. Et Tristan, il aime Iseult aussi. Alors, du coup, l'autre personnage, il avait préparé des filtres d'amour pour qu'ils soient amoureux, lui et la fille, et Iseult. Et en fait, Tristan et Iseult, ils avaient soif. Donc, ils ont bu les filtres sans savoir que c'était des filtres. Et du coup, ensuite, ils sont tombés amoureux. Et du coup, le roi Marc, il l'a su. L'autre personnage, il l'a su. Et du coup, il a proposé un marché que lui, il serait avec Iseult quand les arbres n'auront plus de feuilles. Et Tristan serait avec elle quand les arbres auront ses feuilles. Mais du coup, Tristan, il est toujours avec Iseult parce que le lierre, il perd pas ses feuilles.
D'accord, oui, bah oui. Donc le lierre, il perd jamais ses feuilles en hiver.
Oui.
Avez-vous remarqué ce petit bruit depuis tout à l'heure? Écoutez encore. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis? Vous entendez? On va vous laisser réfléchir. Une petite pause musicale, et juste après, nous allons tout vous dire sur ce bruit plus ou moins mystérieux.
Sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis l'uno foli pupeio, se trapo pesca mi, di l'usan de l'aspeiro, di luca o del rasi, di la mar dell'albiero, se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor de l'asbestio, di l'ombro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis, o lupus in ofelio. Un paese zabal al mies di uno carriero, un danzo treze fans per un sou di miserio, e zabal di lucrit di un freto sabatus, che raba lo bensit senz esperdere tur. Un paese al fond di uno prisu de trebos, che non per tu resun, che lu marzo o crebos. Un paese per tut, un solus privades, sen papi e ni onu, sen zustalus sen terro. Sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis, du nou fuori cupeio, se trapos pezzausis, lucanir un otalbero, du fissu del peril, la soio bartassiero, un país es aquí, un grano la culero, se il plum che se brandis, di l'uffia clalassiero, di l'erso che nos pren, di l'erso che nos seto, di la pel de la ben, di l'asmas de la ube. Se sabías mon país amago pelairar, de l'uro que fusis e que semble eternalo, di las color passido, di las en tu salvazza, di las sabore piro, di la vore laigazze. Sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis un fuori pupeio. Per tutto l'amunas, per tutto l'amur puelio, di l'ufun del pantais, l'ubres di un chimero, di l'usmos di un efan, di lagas di un offenno, un lurire premban, un seschi sulla spena. Sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis, un folle epopeia, se scunna al fondo del rio, di lui si crede l'erbo, l'armo del re Caliu, di lui l'is di no cherbo, mon pais resplandide milo cantaleno, che danzo all'infinito un popolo de sereno, fin topla mon pais, e l'anni di un imestre, un cabal che curris, centrali ogni cabestre. Paese esperto, tu là sullo battesto, e se guarda lo gusto di lende ma di festo, se sabias mon paese, esperto che te spero, se esisti spazio in loc e su la terra entiero.
Et non, ce n'est pas un chien. Un petit indice, il vit dans la forêt. On le confond souvent avec le cerf. Alors c'est un chevreuil. Et oui, c'est un chevreuil. D'ailleurs, on dit que le chevreuil aboie. Le mâle est souvent appelé cabrole ou brocard. Et la femelle, quant à elle, est appelée chevrette. Le faon désigne le petit chevreuil âgé de quelques mois au maximum, alors que le chevrillard est un jeune chevreuil de moins d'un an. Le chevreuil est un sauteur, c'est-à-dire qu'il est capable de sauter de 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur. On peut différencier le mâle de la femelle grâce au miroir. Le miroir, c'est la zone de poils érectiles située sur l'arrière-train de l'animal. Celui de la femelle est plus ou moins en forme de cœur, alors que celui du mâle est en forme de haricot. Ce miroir n'est pas très discret, effectivement, mais il sert à prévenir ses congénères du danger immédiat. C'est-à-dire, dès qu'il y a un danger, le miroir double sa surface par hérissement des poils. Ça fait un peu comme un phare allumé éteint. Le chevreuil est un ruminant, comme le cerf. Il passe 12 heures par jour à manger et il ingère 3 kilos de nourriture par jour. En ce moment, au printemps, il mange des jeunes pousses, des feuilles tendres, des herbes, des fleurs, des bourgeons et des ronces. Parfois, les jeunes pousses peuvent le saouler, comme s'il avait bu de l'alcool. Ça le rend plus ou moins méfiant, et il se laisse alors facilement approcher et fait plein de bêtises, perdant toute notion de méfiance. Pour la reproduction, ça se passe vers mi-juillet. C'est la période de rut, comme on dit. S'il y a accouplement au début de l'été, le développement de l'embryon est stoppé jusqu'en novembre ou en décembre. Ça s'appelle la diapause embryonnaire. La chevrette met généralement au monde 2 faons, de mai à juin. Le mâle ne s'occupe pas des petits. C'est la mère qui les gère toute seule, mais elle les laisse toujours éloignés de 30 à 40 mètres pour pas attirer l'attention. Mais les faons sont quand même difficilement repérables grâce à leur robe tachetée. Ils restent immobiles, n'émettent aucune odeur et se mettent en boule. On pourrait facilement croire qu'ils sont abandonnés et qu'ils nécessitent des soins, mais c'est pas le cas, il faut pas les toucher ni les prendre. Comme pour la chouette, la mère est à côté et les surveille. Autre petite anecdote, au cours de leur croissance, les bois situés sur la tête, qu'on appelle des fois à tort les cornes, sont mous et recouverts de velours. Jusqu'en avril-mai, où le chevreuil perd ses velours en le frottant contre les troncs. Les velours tombés sont aussitôt mangés par le chevreuil. Il laisse alors aucune trace. Pour marquer son territoire, le chevreuil fait des grattis sur le sol ou des frottis sur les écorces, en laissant des odeurs grâce à des glandes odoriférantes qui sont situées sous les bois, entre les sabots notamment. Vous connaissez à présent beaucoup de choses sur le chevreuil et vous allez, j'en doute pas, le croiser tout au long de l'année. Être professionnel de l'éducation à l'environnement, c'est quoi ? Mais d'ailleurs, c'est quoi l'éducation à l'environnement ? Voici le portrait d'une de ces structures, de ces personnes qui savent faire le lien entre l'homme et la nature. Sophie, je viens de voir que tu proposes un projet dans une des classes de Vébron. Alors, tu travailles pour quelle structure déjà ?
Moi, je suis dans une petite auto-entreprise que j'ai nommée en compagnie des plantes. Normalement, il n'y a pas besoin de se nommer quand on est auto-entrepreneur, mais j'ai eu envie de marquer un petit peu la direction de travail qui m'animait au travers de ce nom-là.
D'accord. Et c'est une structure d'éducation à l'environnement ?
C'est pas quelque chose qui est estampillé clairement. Voilà, une auto-entreprise, on nous demande pas clairement de nous positionner par rapport à ça. Mais dans mon esprit, oui, dans la mesure où je pense que tout ce que je fais dans ce cadre-là, pour moi, rentre vraiment dans des objectifs de rapprocher les gens avec qui je travaille du monde qui les entoure d'une manière la plus sensible et ouverte possible. Je peux le considérer quand même comme étant de l'éducation à l'environnement. Mais c'est vrai que je ne me pose pas toujours la question.
D'accord. Là, on t'a vu en action avec les élèves de l'école. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples d'animation que tu peux faire ?
Je propose des ateliers qui peuvent être des ateliers ponctuels de découverte des plantes et des usages et des petites histoires qu'il y a autour. Donc c'est ça qu'on peut appeler par le nom un peu pompeux d'ethnobotanique. Mais donc en gros, c'est des manières diverses et variées de nous relier au monde des plantes. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Donc ça peut être par des histoires, des contes, par des petites préparations culinaires ou pour reprendre un peu d'autonomie aussi dans notre manière de garder la santé ou de se soigner. Voilà, ça peut être en fait assez varié. C'est de l'exploration de nos relations aux plantes et actives à travers le fait de pratiquer des choses.
D'accord.
Donc il y a un atelier mensuel avec un groupe constitué qui est vraiment un lieu d'exploration formidable avec des gens passionnés. Voilà, et ça se passe dans le cadre de l'association des foyers ruraux des Petits Cailloux. Et souvent dans le jardin du lien, mais dans plein d'autres endroits qu'on explore. Et puis sinon, ça se passe dans le cadre du Festival Nature. Chaque année, il y a un mois où on tourne plus tourné vers le monde des plantes et des insectes au mois de mai. Pas cette année-ci, mais en fait, là, chaque année, depuis assez longtemps, je propose des journées cuisiner les plantes sauvages. Voilà, et puis après, c'est à la demande de tel ou tel petit groupe. Ça peut arriver que ce soit pour un anniversaire, des femmes qui ont envie de... c'est arrivé il y a 2-3 ans, et c'est juste être un petit peu médiatrice ou favoriser cette rencontre directe et concrète avec le monde des plantes. Donc moi, je viens là un petit peu faire l'interface, et l'idée, c'est vraiment que je puisse m'effacer après et que les choses se passent toutes seules. C'est de reprendre, de retrouver un lien et de l'autonomie et de l'envie. Et voilà.
D'accord. Et toi, comment t'es venue à avoir toutes ces connaissances sur les plantes ? Est-ce que t'as une formation spéciale ou c'est autodidacte ?
Bon, comme toujours, c'est un peu les deux. Je me suis intéressée aux plantes assez tôt. Réellement, enfin, j'ai eu conscience que je m'intéressais aux plantes à 15-16 ans. Là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert vraiment la porte de ces découvertes-là. C'est Pierre Liotagui, qui est bien connu par tous les gens qui s'intéressent à l'ethnobotanique. J'ai fait des stages avec lui et ça a été vraiment un démarrage de quelque chose. Mais comme toujours, ça avait démarré bien avant. C'est une histoire, voilà, c'est un peu une histoire de vie, tout ça. Et après, j'ai fait des études dans ces domaines-là, un BTS qui s'appelait à l'époque Protection de la Nature, qui s'appelle maintenant GPN, qui est bien connue dans le monde de l'éducation à l'environnement, et puis une maîtrise d'environnement, voilà. Et donc j'ai fait de la botanique, évidemment, dans ce cadre-là, mais de la botanique, quoi. À l'époque, on s'intéressait essentiellement aux plantes, en apprenant à les déterminer, à les reconnaître, ce qui est une porte d'entrée, une première manière, mais très vite, et notamment grâce au contact avec ce fameux ethnobotaniste dont je parlais, j'étais très curieuse de tout ce qu'il y avait derrière le nom et de toute l'histoire qui s'était tissée avec les plantes depuis les origines de l'humanité. Et du coup, voilà, j'avais toujours qui rentrait par la fenêtre dans tout ce que j'ai pu faire autour de la botanique, parce que j'étais d'abord attendue là-dessus dans le travail que je faisais avant, notamment au CEP à Florac, qui est devenu Supagro, où je suis restée assez longtemps, et où une de mes tâches, c'était de former les profs initiation botanique ou écologie végétale. Donc c'était un angle très scientifique d'approche des végétaux, mais toujours derrière par la fenêtre, il y avait d'autres choses qui rentraient et qui m'interrogeaient. Et justement, si j'ai voulu lancer ma propre activité il y a quelques années, avec ce nom En compagnie des plantes, c'est parce que j'avais vraiment l'envie de faire en sorte que ça rentre plus seulement par la fenêtre, mais vraiment par la porte, et de pouvoir complètement consacrer mon temps à cette exploration. Et c'est pour ça que, comme je disais, il y a une formation au départ, mais il y a surtout tout ce qu'on apprend tous les jours, en observant, en cherchant, en fouillant dans la biblio aussi, hein, et en interrogeant les gens. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est la collecte des savoirs. Et quand on prend le temps d'aller écouter, surtout les vieux, mais pas que, du coin, là, sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font encore, ce que faisait leur grand-père, c'est extraordinaire tout ce que... Et donc moi, là, depuis 4 ans, j'ai l'impression de me former, de continuer à me former très fort à tout ça. Et on n'a jamais fini d'apprendre. On est comme la vieille qui ne voulait pas mourir parce que chaque jour, elle apprenait.
Et là, donc, c'est quoi les prochaines dates à venir pour les animations que En compagnie des plantes propose ?
Il y a une sortie plante, une journée cuisiner les plantes sauvages, sur le modèle un peu de celle dont je parlais, que j'ai fait depuis pas mal d'années avec le parc des Cévennes. Mais là, ce ne sera pas dans le cadre du Festival Nature, puisque cette année, il n'y a pas de mois des plantes. Mais ce sera avec une association qui, chaque année, essaie d'organiser une journée comme ça à Saint-André de Valborgne avec l'association Loumescladis. Et donc, ça se passera probablement à Somane le 10 mai. Donc là, il faut se renseigner auprès de l'Office du tourisme de Valborgne pour les gens intéressés. Et puis, autre pan de projet qui est déjà bien démarré maintenant, c'est autour du conte. Donc là, c'est moins autour des plantes. Et c'est en lien, je travaille là-dessus dans le cadre de l'association Parole de Source, qui est une association de conteurs en Cévennes. Et donc, on a un projet qu'on a baptisé Gargantua et compagnie, dans le cadre duquel on donne un spectacle sur les légendes qui circulent depuis la nuit des temps autour de nos paysages, où Gargantua, le drac, les fées, la vieille auraient eu quelques interventions. Et donc, à partir de ce spectacle qu'on donne dans une dizaine d'endroits entre mars-avril et début mai, on essaye de terminer le spectacle en donnant la parole à ceux qui pourraient avoir des bribes d'histoire, d'autres versions. Et on espère, et ça a bien commencé, à pouvoir enrichir un peu notre connaissance de ces vieilles histoires qui se perdent, parce que les histoires, c'est comme les chemins. Si on ne les utilise plus, elles disparaissent.
We'll be right back. suis donc au 04 66 45 25 10 et j'ai une adresse mail sophie.lemonnier avec deux N 48@yahoo.fr.
C'était L'air pur des Barthaz, votre émission nature mensuelle. Diffusée le vendredi en semaine paire à 18h et le dimanche en semaine impaire à 9h. Sur le 107.0 ou sur internet au www.radiobarthaz.net.